Cette semaine, à 100 commentaires ou presque, on enfile notre plus beau tuxedo tout en sirotant un dry martini bien secoué pour se lancer dans la dangereuse mission de revisiter Spectre. Venez voir avec nous si la plus récente aventure de James Bond tient encore la route depuis sa sortie en salle. Salut tout le monde, je m'appelle Sébastien Bourget et bienvenue à ce nouvel épisode de 100 commentaires ou presque, votre podcast pour cinéphiles. Vous savez, tant qu'à partir son propre podcast, autant en profiter pour vraiment se faire plaisir en y parlant de ce qu'on aime dans la vie. Pour moi par exemple, depuis que je suis très très jeune, je suis un vrai passionné des films et de l'univers de James Bond. J'ai vu tous les films des dizaines de fois, je possède des objets de collection tirés de quelques-uns d'entre eux, et j'en connais un sacré rayon sur toute la mythologie des coulisses de cette série de films qui fête en ce moment ses 53 ans. Comme c'est aussi le cas pour mon invité d'aujourd'hui, lui et moi on a décidé de faire la chose la plus logique qui soit, s'asseoir devant un micro et parler d'un des nombreux films de l'agent 007. Ça ne nous a pas pris beaucoup de temps pour décider de celui dont on voulait discuter parce que Spectre, le plus récent film de la série, contient tous les éléments, positifs et négatifs, pour vous donner une conversation très intéressante. À la demande générale, après son excellente performance dans notre épisode sur Armageddon, Gabriel Turpin-Crête est de retour comme invité dans cet épisode qui sera divisé en deux parties. Pourquoi y couper en deux? Simplement parce que Gabriel et moi avons tellement été absorbés par le sujet dont on parlait que notre enregistrement a duré près de 3 heures. Alors on va vous l'offrir dans un format qui est pas trop lourd pour votre attention et qui va faire durer le plaisir un petit peu. C'est maintenant le temps de bien vous installer et de venir revisiter en détail avec nous les scènes marquantes de ce film et toutes les histoires étonnantes de leur tournage. Le film Spectre, l'année 2015. Réalisé par Sam Mendes et mettant en vedette Daniel Craig quand il était encore heureux de jouer le rôle de Bond, Léa Seydoux sans ses cheveux bleus, Ralph Fiennes avec sa belle posture et Christoph Waltz qui joue encore le rôle de méchant. Oups, désolé d'avoir gâché le punch. Et chers auditeurs, on est de retour à ce deuxième épisode, alors maintenant c'est le temps de passer à l'action comme ferait notre ami Bond. Comme mentionné dans l'intro, je suis accompagné à la demande générale, il est de retour, enfin. Gabriel Turpin-Crête, content de te revoir ici autour de la table, mon vieux, très heureux de te voir. Comment ça va?
Ah, ça va très bien, merci infiniment de m'accueillir pour ce deuxième épisode.
En fait, c'était une logique implacable de t'avoir, honnêtement. Tu sais, de toute ma gang d'habits, t'es probablement la personne qui a les compétences puis les connaissances nécessaires sur Bond pour être avec moi cet après-midi, pour pouvoir en parler de fond en comble, pour pouvoir vraiment décortiquer ce film-là, le tout nouveau Spectre, de la meilleure des manières possibles et avec toute la crédibilité au monde possible également.
Mais c'est un très beau compliment que tu me fais. Et puis, avant de poursuivre, moi, je voulais souligner l'excellent travail que tu as fait sur l'épisode d'Armageddon.
Et tu vas me faire rougir.
Je l'ai écouté avec un plaisir continu. Toute l'heure 53, à chaque fois je riais, c'était extraordinaire. Non mais sincèrement, et puis t'as fait un magnifique travail au niveau technique aussi, alors je voulais le saluer.
Oui, absolument, pour nos auditeurs qui se demandent qu'est-ce qui se passe avec ça. J'ai littéralement sauvé cet épisode-là, honnêtement. Il y a eu des problèmes de corruption technique dans le MP3 de base. Alors finalement, j'ai fait un travail de moine pour être capable de le sauver. C'était pour toi, pour faire en sorte que tu puisses avoir ce moment-là entre nous deux toute ta vie. Puis tant mieux si nos auditeurs l'ont apprécié aussi. Mais là, la gang, comme promis la dernière fois, pas de pépins techniques cette fois-ci, d'accord? On y va pour de vrai avec notre formule 2.0, sortie des cendres tel le phénix. Là, écoutez, à la maison, moi je me fais plaisir aujourd'hui. Moi je suis un très très grand fan de la série des Bond depuis que je suis tout petit. Gabriel, c'est la même chose. Alors, on s'attaque à James Bond, on se fait plaisir, puis on a pris Spectre. Pourquoi Spectre précisément? C'est le but du podcast ici sans commentaire ou presque. C'est tout simplement de pas prendre un film qui a juste des mauvais points ou qui a juste des bons points, parce que sinon la conversation serait pas super intéressante. Fait que là, moi j'aime ça avoir comme autant de bons côtés que d'aspects peut-être un peu plus discutables qui sont capables de générer une conversation. Alors Spectre, je trouve, remplit exactement cette mission-là. C'était pas le but, bien sûr, des acteurs puis des producteurs puis du réalisateur, bien sûr.
Probablement pas.
C'était pas vraiment à ça qu'ils s'attendaient. Mais anyway, ça a donné ça pour notre plus grand plaisir. Mais juste avant qu'on se lance vraiment dans le vif du sujet, moi j'ai envie que tu me parles. On va retourner vraiment encore une fois avec la question de brise-glace que j'aime toujours avoir. Je veux que tu nous ramènes, moi ainsi que nos auditeurs. Parle-moi un petit peu de quand quand est-ce que tu as découvert Bond? Comment ça s'est fait?
C'est une belle question que tu me poses, puis les auditeurs vont apprendre à me connaître davantage dans ma jeunesse. Eh bien, dans ma famille, j'ai un oncle qui me faisait un peu penser à James Bond, en fait. Et c'est un peu lui qui m'a amené vers ces films-là. Lui était très attiré par un peu le ski, les Alpes suisses, la vie de gambler, la vie d'homme intéressant.
Wow. Qu'est-ce qui se présentait comme genre Crête, Gilles Crête, quelque chose de genre, je sais pas.
Non, heureusement pour tout le monde. Mais c'était, et ce l'est toujours, c'était un homme à femme, okay. Ce l'est toujours. Puis évidemment, quand t'es jeune puis que tu rencontres une personne qui a cette assurance-là, qui a cette confiance-là, puis qui a une aura, vraiment, c'est un homme charismatique, et puis un homme gentil, généreux, mais qui a toujours du succès, et qui est un peu...
c'est sûr que... Je l'aime déjà, ce gars-là.
On est dans une autre... Ah oui, il est extraordinaire. On est quand même dans une autre époque, ce qui fait que aujourd'hui on pourrait dire qu'il a évolué un peu en mon oncle particulièrement weird...
Mais tellement suave et débonnaire, j'imagine.
Mais tellement suave, exactement. Puis quand je sais pas si tu te rappelles les annonces de Dos Equis, l'homme le plus intéressant du monde. Là,
mais il préfère Dos Equis.
Exactement. Alors cet homme-là me fait penser à mon oncle, autant que James Bond me fait penser à mon oncle, ou en fait que mon oncle me fait penser à James Bond. Et puis lui, il avait une fascination pour James Bond. Comme je le disais, lui, la vie luxueuse, un peu, bon, il s'est bien aidé aussi, là, il y a un bon boulot qui lui permet de vivre cette vie luxueuse-là. Il se promène en voilier, tout ça, ouais, il a parcouru le monde... donc, un homme très intéressant qui, en quelque sorte, m'a poussé à m'intéresser à James Bond. Et au film de James Bond, mais aussi au livre de James Bond. Parce qu'à cette époque-là, c'était relativement récent. Je veux dire, lui, dans sa jeunesse, les Ian Fleming.
Oui.
Et puis, j'en ai lu quelques-uns, notamment Le délicieux Octopussy, qui a un titre pas du tout plein de double sens.
Octopussy.
Exactement.
Génial.
Puis James Bond, honnêtement, qui ne connaît pas... Premièrement, qui ne connaît pas James Bond?
C'est pas ça, grand
monde.
Je pense pas qu'il y ait grand monde,
les
ça.
Gens qui ne regardent pas James Bond ont quand même une opinion sur James Bond. Souvent, quand on parle de James Bond, puis je l'ai fait là, avant de parler de... Avant d'arriver ici, en fait, pour le podcast, j'ai des discussions un peu partout.
T'as sondé la population,
ah, oui,
ok.
Oui. Ah, mais forcément, moi, les auditeurs, je les ai à cœur autant que toi. Et puis, forcément, le fait d'évoquer le nom de James Bond et les films de James Bond, ça a soulevé certaines controverses, surtout chez la gente féminine, oui, absolument. Parce que James Bond a quand même une réputation qui traîne derrière lui. En même temps, quand on regarde les premiers films, on peut... Il y a des choses qu'on peut dire que c'est limite. C'est limite. Ça reste pas moins des commentaires pertinents de leur époque. Et puis, comme je le disais, tout le monde connaît James Bond, pratiquement. Pas vrai que tout le monde dans le monde connaît James Bond.
C'est sûr que tout le monde connaît pas James Bond, mais écoute, c'est ce pourcentage de population qui connaît pas cette marque de commerce-là,
ouais.
Là, dans le fond, de ce personnage, parce que c'est ça c'est rendu une marque de commerce, qui est souvent associée à de la promotion de produits, t'sais, comme on l'a vu, t'sais, Heineken, Rolex, les montres Omega, Aston Martin, name it. Écoute, c'est tout attaché au gars, au tuxedo, peu importe l'acteur qui le joue.
Il y a une fascination autour des Aston Martin, justement, qui ne peut être due qu'à James Bond, pratiquement, ou en tout cas, En grande partie, ça, certainement. Et donc, ce lien-là que j'ai fait tout jeune avec James Bond, je l'ai fait à partir de mon oncle, que je trouvais fort intéressant.
Mais je veux vraiment le rencontrer, ce gars-là, OK? Genre,
ça va me faire plaisir de te présenter.
Il vient-tu à ta fête ou quelque chose de genre? Je veux serrer à pince, OK?
Et tristement, non, il habite en Outaouais, mais il aimerait que je passe le voir le plus souvent.
Parfait. Si t'as besoin d'un chauffeur désigné, fais-moi signe.
Ah, mais écoute, okay, pourquoi ne pas y aller en Aston Martin, justement?
Ben, avec plaisir.
Mais à mon tour de te poser la question, tu vois, je te la tourne.
Je peux y répondre, mais c'est une longue histoire quand même.
Okay, mais écoute, bon. On est prêt.
Ok, bon, ben, avez-vous 10 minutes? Ok, j'essaie de le faire en bas de 10 minutes. ça a commencé en 95, étrangement, avec la ressortie du personnage. C'est-à-dire, entre 89 et 95, Bond a pris un petit break. Il n'y a pas eu de film à cause d'un paquet de problèmes, surtout liés à des poursuites judiciaires avec le fameux Kevin McClory, dont on va parler un petit peu plus tard. Mais il n'y a pas eu de film entre 89 et 95. Finalement, bon, sont arrivés avec GoldenEye, ils ont reparti la franchise avec un acteur plus jeune, un acteur qui était supposé jouer James Bond depuis 1987 quand même, c'était lui, c'était Brosnan qui était supposé
faire.
En fait, c'est ça qui avait été choisi littéralement pour jouer le rôle. Finalement, il y a eu un conflit d'horaire avec Remington Steele, puis ça fait en sorte que ben il a dû malheureusement se retirer du projet, et c'est Dalton qui a été choisi. Donc là, tout ça pour dire que bon, en 95, je suis au courant, je sais c'est quoi un peu le concept de James Bond. Enfin, moi, mon père loue GoldenEye au club vidéo, je le regarde, puis ça me fait pas grand-chose,
ultimement.
Je fais comme bof, c'est ça James James Bond, ok, genre, je suis retourné jouer au hockey dehors, puis tout était beau. Ensuite, c'est là où l'élément déclencheur commence. À chaque 2 ans, TQS faisait, à chaque été, un festival James Bond. À tous les jeudis, à 19h, il passait un film de la série, jusqu'à temps que tous les films aient été passés. Donc, ça leur bouquait des cases horaires en plein milieu de l'été.
Ça quand en fait
avait...
quand même.
C'est ça, quand il n'y avait pas de programmation originale. Alors là, je me suis mis à regarder ça. Je me suis dit, bon, on va découvrir ça, surtout que j'avais hâte de voir de quoi Sean Connery avait l'air jeune, parce que Sean Connery, je l'ai... parce que ça, Sean Connery, je l'ai connu. Pour moi, c'était le père d'Indiana Jones à cette époque-là. Pour moi, c'était qui d'autre? C'était, en tout cas, voilà, il y a quelques autres rôles. Mais moi, ce gars-là, Sean Connery, pour moi, a toujours eu 60 ans. Alors, j'étais heureux de voir Connery. Donc, ça a commencé avec Dr. No. La semaine d'après, c'était Bon Baiser de Russie. Après ça, la semaine d'après, j'ai vraiment embarqué avec Goldfinger, que j'ai beaucoup aimé. Et là, rendu à la 4e semaine de Thunderball, moi, cet été-là, j'allais dans un camp de vacances, un camp sportif, genre au centre Claude Robillard. Et là, mon père venait toujours me chercher vers à peu près 3 heures. Et là, il vient me chercher, je m'assois à côté de lui, puis là, à mes pieds, je vois un sac de plastique avec le logo du club vidéo, où est-ce qu'on allait toujours sur la jeunesse, là, le bon vieux club international ou DVDO. Et là, il y a 2 cassettes dedans. Là, je fouille, je regarde, il y a 2 James Bond. Il y a un Connery, qui est On ne vit que 2 fois, et Moonraker. Puis moi, j'avais jamais encore vu genre un film avec Roger Moore dedans. Alors là, mon père, il fait comme Seb, on soupe ensemble puis on écoute ça ensemble tous les deux. Fait que là, on s'est claqué les 2 films dans la soirée. Puis là, après ça, à toutes les semaines, mon père, à chaque fois, on avait notre rituel. Quand il venait me chercher le mercredi à mon camp, il y avait toujours genre le petit sac du club vidéo avec 2 autres copies de films de James Bond. Surtout que c'était genre l'époque où est-ce que, je pense que c'était pour fêter les 35 ans de la franchise. Ils ont ressorti des vidéos cassettes, vraiment les gros coffrets avec comme une toute nouvelle infographie, une toute nouvelle numérisation pour avoir nettoyé la bande. Fait que là, c'était super cool à découvrir. De fil en aiguille, là, j'ai commencé à devenir passionné. Puis là, je me souviens, cet été-là, en plus, j'avais spoté au club vidéo, encore une fois, à cause de ces rééditions-là pour les 35 ans. Ils ont sorti le gros coffret avec tous les films de Roger Moore, à l'exception de Live and Let Die. Plus, dans ce même coffret-là, il y avait les 2 de Dalton, Living Daylight, puis License to Kill. Puis là, je l'avais dans le collimateur, ce coffret-là. Il était à 120$, je le voulais. Puis là, à un moment donné, à mon anniversaire, il y a une de ma marraine qui était en ville. Fait comme, hey, Seb, qu'est-ce que tu veux, genre, pour ta fête? Je veux des cassettes vidéo. Tu veux des cassettes vidéo? OK. Combien t'as besoin? J'aurais, ma tante, besoin d'à peu près 100$, OK? Là, après ça, elle me le donne. Là, après ça, j'accroche.
100$.
Elle sort dans son portefeuille, elle me sort un brun. Après je pogne mon père par la main. Je suis comme, pap, que vidéo, tout de suite, go! Puis première chose que je sais, 10 minutes plus tard, j'ai enfin mon coffret. Et je peux te dire que je suis pas sorti de ma chambre dans les 4 derniers jours suivants parce que je me les suis claqué.
C'était parce que tu claquais les films.
Ah ouais, je me claquais les films, c'est ça exactement. Regarde, moi, tu
pas
me
pour d'autres raisons.
Écoute, moi, ça me prenait un verre. Moi, j'ai vécu pendant ces 4 jours-là de consécutif, j'ai vécu avec des popsicles puis du coke, là, carrément.
C'est
c'était
parfait.
Ça, mon alimentation. Parce que l'ère Brosnan venait de commencer. Ouais. Sauf que là, vraiment, j'avais découvert les Roger Moore au complet, les Dalton également. J'avais fini de faire mon marathon de Sean Connery à TQS. Puis là, bon, j'ai commencé à avoir le plaisir de pouvoir aller voir des bandes au cinéma. L'année d'après, en fait, 2 ans plus tard, c'était Tomorrow Never Die qui était sorti.
Ouais.
Puis j'ai pu commencer cette tradition-là. À chaque fois qu'il y avait un band qui sortait, moi et mon père, on y allait et ça a duré jusqu'à Skyfall. Côté film de James Bond, sérieusement, je veux pas me souffler dans ma propre trompette, comme on dit, mais il y a une grosse place dans mon cerveau, dans ma mémoire pour ça. Fait que tu sais, tu pourrais me montrer juste une image d'un film, tu me dis ça vient de quel film, ça, puis je peux te le dire. C'est à ce niveau-là.
Ah, je confirme que t'es extraordinaire. Ouais. Incollable.
Exactement. Puis là, un petit peu comme toi, j'ai commencé à me mettre au livre il y a pas très longtemps. Genre, je me suis acheté mon premier, d'ailleurs, qui est pas de Ian Fleming. C'est que, bon, indépendamment des films, puis indépendamment de la mort de Fleming, les livres continuent. Il y a des auteurs qui sont engagés, justement, par la succession de Bond, en fait, de Ian Fleming.
Sont autorisés.
Sont autorisés à produire des nouvelles originales. Fait que là, je m'en suis pogné un à l'automne qui s'appelait Que le diable l'emporte. Puis ce qui est le fun, c'est que ça se passe dans les années 60 avec la version Sean Connery de Bond. C'est le fun à voir, c'est vraiment cool. Puis aussi, ça perpétue une des traditions. En fait, c'est pas vraiment au cinéma que ça a été perpétué, mais plutôt dans les livres où est-ce que les méchants des nouvelles de Ian Fleming, il y avait toute une particularité, un défaut physique, un handicap, quelque chose du genre, une particularité bizarre. Dans ce livre-là, ça continue où est-ce que le méchant Julius Garner a comme genre une espèce de main de singe à la place. Il y a une main toute poilue, puis genre qui est simiesque, puis en tout cas, c'est très amusant. Puis la misogynie de Bond est là, puis un peu le je m'en foutisse auprès des femmes. Écoute, c'est vraiment années 60 au bout, mais c'est agréable à découvrir. Puis ça aurait fait un bon film aussi. L'histoire est pas mauvaise du tout. Alors voilà, ça ressemble
à ça. Donc, je vais te relancer quand même.
Tu me relances, là?
Oui, okay, je te relance. Spectre, la première fois que tu l'as vu, c'était-tu au cinéma ou en DVD?
La première fois que j'ai... Non, en fait, honnêtement, Spectre, je l'ai vu, je crois l'avoir vu en DVD. Ouais, j'étais pas allé voir Spectre au cinéma.
OK.
Pourquoi? Parce que mes frères sont allés voir. Il y a une tradition chez nous d'aller au cinéma entre frères.
En famille, c'est ça.
Et puis, oui, ben, en famille, mais généralement, mes parents, ma belle-mère ne parle pas anglais, elle parle français. Elle parle pas anglais, donc elle a de la misère à aller au cinéma en anglais.
C'est probablement son seul défaut, cette femme-là,
ben
en
oui,
plus.
Elle est extraordinaire.
Quelle femme.
Mais, elle pouvait pas nous accompagner voir Spectre en anglais. Et puis moi, ça faisait, en 2015, je pense que j'avais déjà commencé à travailler de soir. Ça vous donne une idée, ça fait combien de temps que je n'ai pas de vie. donc pour moi, le cinéma, c'était chose exceptionnelle. Et puis mes frères sont partis probablement un mardi, là où c'est moins cher. Ils sont allés le voir, ils sont revenus, puis ils ont dit... Pas sûr.
Ah oui,
pas sûr.
Okay.
Alors j'ai donc attendu que le DVD sorte. Puis le premier visionnement, je suis resté perplexe, beaucoup moins que pour Quantum of Solace. Mais alors c'est pour ça que j'ai trouvé ça intéressant en fait, ton ouverture sur le fait de faire un épisode sur Spectre.
Oui, parce qu'étrangement, faut que j'avoue aussi que Spectre me fascine un petit peu parce que c'est le genre de film que je regarde souvent dans le but de le trouver bon.
Oui, oui.
Parce que je sais, je suis conscient de ses défauts, puis j'essaie de passer outre ses défauts pour me focusser sur les qualités. Et Dieu sait que ce film-là en a beaucoup, puis on va les aborder
oui,
tout à l'heure.
Ben oui.
Mais j'essaie de trouver, parce qu'il y a toujours un moment dont on va discuter encore où la chaîne débarque pour moi au niveau de l'histoire. Ton moment où est-ce que la chaîne débarque, c'est peut-être le même que moi aussi. Mais c'est là où la chaîne débarque, puis c'est comme, le produit devient juste un petit peu bâclé.
Comme on dit en anglais, they jump the shark.
Oui, oui, ou they nuke the fridge, ou ouais, c'est Indiana Jones, ou peu importe. Il y en a plein. Mais c'est ça, donc, c'est ça, Spectre.
T'as eu la chance de le voir au cinéma, toi.
Oui, 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 ben, j'ai vu au cinéma. Chance. C'était, étrangement, le seul band que j'ai pas vu au ciné avec mon père. Il était indisponible cette soirée-là, fait que j'ai amené mon ami Tina, qui était la meilleure personne possible pour remplacer mon pops. Alors, finalement, moi aussi, je suis sorti de là perplexe. Je suis sorti un peu avec exactement le même feeling de « ouais, mais » de quand je suis sorti de, justement, Quantum of Solace aussi. Okay, j'ai fait « c'est bien, mais il y a de quoi qui est incongru dedans. » C'est pas une expérience aussi satisfaisante qui était pour moi Casino Royale ou bien Skyfall aussi.
Absolument. Puis c'est pas juste dû au fait qu'ils sont pas des suites, mais qu'ils sont le film après un excellent Bond. Parce que ça arrive de temps en temps, en fait, dans une série comme ça, que le film qui suit un grand film va avoir la misère à vivre à la hauteur du précédent, finalement. Puis là, on peut dire, parce que Casino Royale, bon, déjà, arrivait avec une relance complète, en fait, du James Bond, là, t'sais, puis une surprise, finalement, de ce qu'était l'univers de Bond tel que vu par le nouveau réalisateur, puis avec le nouveau Bond aussi, ben avec
absolument.
Daniel
Craig.
Et puis après ça, tu tombes dans Quantum of Solace, qui est pas à la hauteur du premier.
Tout à fait, parce qu'il a souffert un peu, quand on en parlait hier soir, il a souffert du fait que ça a été fait pendant la fameuse grève des scénaristes de 2008.
Voilà.
Alors les deux scénaristes, Purvis et Wade, ont dû respecter les règles de leur grève. Et là, pour finir, boucler la fin du film, c'est le réalisateur Mark Forster, puis Daniel Craig qui ont sont mis derrière leur machine à écrire, puis qui ont écrit la fin. Et Daniel Craig, après ça, a dit c'est là où j'ai appris qu'un scénariste, je ne suis pas.
Exactement.
Fait que, anyway, ça a donné. Le film a quand même des qualités également, Quantum. Quand tu le compares ultimement, si tu le mets au jeu des comparaisons avec Casino Royale, c'est deux films complètement différents. Mais il y a une nouvelle théorie qui est sortie que j'ai mis à l'essai, puis que ça fonctionne. C'est faut que tu regardes Quantum of Solace immédiatement après Casino Royale. Faut que tu fasses un programme double. Puis là, ça a l'air d'être un gros film d'à peu près 4 heures et quelques. Et ça fait un peu plus de sens.
Oui,
avec
j'ai testé, en fait, sans vouloir t'interrompre, j'ai fait cette semaine, en fait, mes devoirs, évidemment. J'ai regardé les quatre Daniel Craig, en français, s'il vous plaît. Comme dirait un certain PKP que nous ne nommerons point ici. Mais, et donc, effectivement, c'est moins décousu. C'est moins décousu quand tu le regardes peu après avoir regardé Casino Royale. Mais il y a quand même de grandes failles.
Oui, c'est
comme on
ça.
En discutait, particulièrement, comme tu le disais, au niveau de la scénarisation.
Mais ce qui est encourageant, au moins, c'est qu'il y a une lueur d'espoir. Parce qu'en fait, il y a des gens qui sont arrivés avec l'espèce de petit théorème de Daniel Craig que moi, je trouve charmant. C'est que dans les quatre films de Daniel Craig, c'est les nombres impairs qui sont bons et les chiffres pairs qui sont mauvais. Donc, 1 et 3, Casino Royale, Skyfall sont super bons. Puis 2 et 4, Quantum, Venom puis Spectre un petit peu inférieur. Fait que là on a un paquet de raisons d'être optimiste pour le prochain qui s'en vient. Voilà. Ça va être le cinquième, donc un nombre impair.
On devrait être chanceux.
Voilà, surtout si tout va bien avec Danny Boyle aux commandes, alors je vais être très heureux de voir ce que ça va donner, honnêtement. Si ça devient à être à confirmer à 100%, maintenant je pense que c'est confirmé à peu près 85% qui.
Mais j'ai hâte de voir ça.
Je suis très curieux de voir
ça. C'est sûr que je vais y aller. Tu vois, parce qu'il y a ça aussi, il y a cette aura-là autour de James Bond. On a envie que ce soit de bons films. Donc quand ils sortent, un peu comme par exemple les Star Wars ou les films qui nous sont chers, là tu te dis, ok, qu'est-ce que ça va être? Est-ce que ça va être bon? Est-ce que t'espères que ça soit bon? Puis tu y vas plein d'espoir. Ça arrive d'être déçu, comme c'est arrivé avec dans l'ère Pierce Brosnan.
Ah, c'est arrivé dans toutes les ères.
Exactement, mais c'est ça, voilà. Mais il peut toujours nous surprendre.
C'est ça, ben avec 25 films aussi, c'est toujours bon, des bons et des moyens et des pas bons, là, bien sûr. Tu sais, ça arrive, c'est tout à fait normal. Mais effectivement, comme tu le dis, il y a toujours cet espoir-là d'être diverti, d'avoir du plaisir, puis de s'en souvenir, puis de nommer ce nouveau James Bond-là comme un exemple à suivre. Puis dans le fond, tout le monde est gagnant. Puis ultimement, même s'il est moyen, même s'il est pas bon, t'aimes ça, James Bond? Tu veux-tu un autre James Bond? Ouais, tu sais, t'aimes-tu la pizza? Ouais. Tu veux-tu une deuxième pointe de pizza? Ouais. Bon, une autre portion d'une bonne chose? Ben vas-y, regarde, même si elle est un petit peu moins bonne, ben, un petit peu plus frais que l'autre, ben ta pointe de pizza, tu vas l'aimer quand même.
J'ai quand même envie de manger une autre pizza après, tu sais.
Exactement, voilà. Alors, ben juste avant de commencer, chers auditeurs, notre visionnement de Spectre, on va faire un petit peu comme on l'a fait avec Armageddon, on va survoler le film avec des extraits, amis, etc., et des moments forts et des conversations formidables également. Ben moi, je voulais vous donner un petit peu de contexte sociopolitique de l'époque où Spectre est sorti. Donc, on se ramène en 2015.
Voilà.
Là, ben comme tu l'as mentionné, écoute, les enjeux étaient hauts. On venait de sortir de Skyfall. Skyfall a battu tous les records au box-office pour un film de la franchise. Ça a fait au-dessus $1 milliard. Aussi, ce qui expliquait ça, c'est que la formule a été un peu revivifiée avec l'ajout de Sam Mendes, un nouveau réalisateur qui a donné un peu plus d'énergie à la formule qui était peut-être un petit peu fatiguée après Quantum. Ensuite, ils ont ramené le scénariste John Logan, très connu pour un paquet de bons films qui a très bien écrit. Il est venu donner un coup de main aux deux scénaristes qui étaient présents, Purvis et Wade, parce qu'ils commençaient à être un petit peu fatigués. Donc, il a donné vraiment un coup de barre nécessaire. Craig était vraiment de retour, c'était vraiment fou. Il a donné une très bonne performance. Même que, écoute, la chanson thème d'Adèle a remporté l'Oscar de la meilleure chanson. Des Grammy à n'en plus finir. Et ça a été une expérience extrêmement positive. Et là, quand Spectre a été annoncé, toutes les pièces de l'échiquier qui a fait le succès de Skyfall étaient là. Sam Mendes est là. John Logan est là tout seul cette fois-ci. Daniel Craig est de retour. Christoph Waltz qui peut-être pourrait jouer. Ça n'a pas été tout à fait révélé, mais peut-être qu'il pourrait jouer le fameux Blofeld. Mais en fait, ça a été annoncé qu'il jouait un personnage qui s'appelait Oberhauser. Puis dans les nouvelles, ben, c'est le personnage qui a montré à skier à Bond. Quand même très important.
Quand même, ben oui. Surtout quand on voit l'aura qu'il y a autour du ski dans Bond.
Tout ce que fait le succès de Skyfall est là pour Spectre. Jusqu'au moment où la Corée du Nord a débarqué et a piraté les fameux serveurs de Sony Pictures. Alors, ils ont rendu public sur le net un paquet d'emails internes à propos de...
De
production, de commérage sur des acteurs, des actrices, qui ont aussi fait couler un paquet de versions préliminaires de scénarios. Et il y a eu plusieurs de ces documents-là qui avait rapport à Spectre. Et je peux t'assurer que quand j'ai su ça, ces documents-là, je les ai traqués sur Internet, je les ai pourchassés. Puis quand j'en trouvais un, je l'étudiais soigneusement pour vraiment être au fait de tout ce qui se passait. Et c'est là où est-ce que, à la lecture de ces documents-là, les gens ont fait « Ih, ça, la production a pas l'air facile de Spectre » parce que les deux premières versions du scénario de John Logan n'étaient pas très satisfaisantes, justement. Il y avait vraiment des problèmes avec les personnages, avec la structure, avec les enjeux dans lesquels Bond doit se dépêtrer, un paquet d'affaires de même. Ça a commencé à mettre la puce à l'oreille, comme quoi, ben, peut-être que le film aurait certains défauts.
Il parlait notamment du troisième acte, si je me trompe pas.
Oui, exactement.
Il revenait souvent...
Tout à fait, la finale du film, c'est-à-dire que c'est incongru, c'était pas assez satisfaisant, il manquait de développement personnage, la relation avec la Bond girl n'était pas très bonne, et un paquet d'affaires de même. Mais tout ça, je vous garde ça pour notre fameuse section « Savais-tu Gab? » à la toute fin, où est-ce qu'on va parler un petit peu de petite pépite d'information. Je garde ça pour la fin.
Je le savais pas.
Oui, moi je garde ça pour la fin. Vous allez voir, ça va être très très plaisant. Alors ultimement, le tournage a eu lieu. Donc Sam Mendes a fait la job au mois de novembre 2015. C'est là où Spectre est sorti. Ben, parlant de Spectre, pour ceux qui ne l'ont peut-être pas vu ou qui veulent l'écouter de manière audio avec nous autres, ben on va commencer à en parler. Qu'en penses-tu?
Oh oui, moi je pense qu'on est prêt.
Alors on se lance immédiatement dans l'ouverture du film et le film commence avec deux éléments un qu'on est heureux de revoir et l'autre qui est une première. Celui qu'on est heureux de revoir, enfin, pour une fois, dans l'air Craig, on voit la fameuse petite scénette où Bond marche, se retourne vers la caméra, tire à l'intérieur du barillet du fusil, le sang tombe. Enfin, Écoute, Casino Royale s'était mis, c'était au début, mais dans une version un petit peu comme alternative, avec une variation.
C'était intéressant, par contre.
Ça faisait partie vraiment de la scène d'ouverture. C'est ça qui était le fun. C'était bien imbriqué là-dedans. Après ça, fouille-moi pourquoi, dans Quantum et Skyfall, ils nous ont sacré ça à la fin. Ça voulait dire...
Quantum of Solace, là. Il y a bien des choses qui ont fait tout croche sur ce film-là. Mais c'est... ça, c'était comme la première. Tu dis, c'est fou à quel point... OK, pourquoi t'as pris cette décision-là de mettre ça à la fin? C'est un James Bond.
Oui. L'explication logique, moi, ce que j'aurais utilisé, ce que j'aurais dit si on m'avait posé la même question, c'est que... Mais là, en fait, c'est ça, c'est un arc où est-ce que là, dans votre premier film, on a montré James Bond dans sa première mission, puis là, dans Quantum, maintenant, toute l'histoire un peu avec Vesper, ben là, elle est complétée. Donc là, Bond est vraiment maintenant le 007 que vous connaissez. Alors, c'est pour ça que cette petite scénette-là, on la met à la fin pour montrer que le personnage, maintenant, il est complet. Sauf qu'avec cette logique-là, pourquoi pas, au début, Skyfall, avoir mis, justement, la scène avec le tir dans le barillet du fusil au début?
Oui, parce que finalement, il s'est devenu un agent, là. C'est vraiment
Il est Bond, maintenant, là, absolument. La deuxième affaire, que c'est la première fois qu'on voit ça dans un film de James Bond, il y a une exergue de les morts sont vivants. Dead or alive. Ouais. Pourquoi? Ben, en fait, c'est très artistique, bien sûr, c'est très cute, sûrement une décision de dernière minute de Sam Mendes, mais ça fait référence, selon moi, à trois affaires. Premièrement, bon, ce qu'on voit immédiatement après, c'est-à-dire que c'est le jour des morts.
La
à
séquence
Mexico.
D'ouverture. Voilà.
Deuxièmement, ça fait peut-être référence à Oberhauser aussi, qu'on croyait mort. Oui. Et troisièmement, ben, ça fait sûrement référence à Bond aussi, qui, au début de Skyfall, qu'on croyait mort également, et qui, tel le phénix, qui a ressuscité.
Intéressant,
carrément.
Tu vois, cette troisième explication-là.
Ah, mais c'est de l'analyse de base. J'ai pensé 30 secondes, puis c'est
pour
tout,
ça que c'est plaisant d'en parler avec toi, tu vois.
Mais t'avais-tu une théorie là-dessus?
Ben non, en fait, j'avais les deux premières explications. En fait, on est au Dia de los Muertos, donc Day of the Dead au Mexique. Puis c'est très drôle parce que j'avais lu justement que le gouvernement mexicain a payé une partie de la production de James Bond pour s'assurer que le Mexique et en fait la ville de Mexico soit bien représentée dans le film.
Ah oui, ok, ça je savais pas.
Pour pas que les Mexicains soient représentés comme des gangsters, mais pour qu'on voit le côté florissant en fait de la capitale mexicaine.
Alors pour vous situer dans l'action, ça commence à Mexico pendant la parade du jour des morts. Alors là, à travers vraiment aussi, c'est à spécifier que c'est tout en plan séquence pendant à peu près un 2-3 minutes, quand même très très bien fait. Et là, bon, parmi toute la cohue, parmi tous les gens déguisés, maquillés en squelette qui fêtent, ben on va voir une silhouette vêtue de blanc et masquée qui déambule dans la rue. Et là, cette silhouette là, carrément cet homme là qu'on va découvrir dans quelques instants et qu'on va tout de suite nommer Sciarra, est suivi par deux personnes, une femme masquée ainsi qu'un homme avec un haut de forme, un espèce de costume veston-cravate vraiment qui représente un squelette et le masque également de crâne. Alors bon, les deux arrêtent de suivre cet homme en blanc-là, montent dans une chambre d'hôtel et finalement commencent à retirer masque, l'homme enlève son masque et c'est James Bond. Alors là, James est là. Alors la fille s'en va sur le lit prête à passer à l'action et là, sa face change. Bond, en 5 secondes, plutôt en 2 secondes, le temps d'un un panorama de caméra, a enlevé son costume puis là, maintenant, il porte un beau costume Tom Ford à 7 000$ et dit « Je m'en vais dans un instant. » Et là, sort dehors, marche sur les toits et là, va se positionner devant une fenêtre où est-ce qu'il y a l'air d'avoir un meeting avec cet homme en blanc-là et une autre personne où là, ils ont l'air de régler les derniers détails d'une espèce d'attentat terroriste où est-ce que finalement, on apprend que Sciarra est supposé amener une valise qui contient une bombe à l'intérieur de la place publique pour la faire sauter et créer un attentat terroriste.
Dans un stade, en fait.
C'est ça.
À 18h dans un stade, fait que ça, c'était leur plan.
Le Bond se fait remarquer, il y a une mini fusillade, Bond fait sauter la valise qui tient la bombe, tout explose. Dans le fond, ça fait sauter également le building qui est devant Bond. Il y a écroulement, Bond doit se sauver des décombres. Oui. Là, il y a le petit gag
l'humour de Sam Mendes.
C'est ça, il y a le petit gag où est-ce qu'à un moment donné, Bond, il tombe dans le vide et finalement, sa chute est amortie par un divan. Ça fait très Roger Moore comme petit gag,
mais
je trouve.
Oui, ça contribue en fait à asseoir l'atmosphère de James Bond parce que oui, il y a toujours l'action, il y a le divertissement, mais dans le divertissement, il y a toujours les petites touches d'humour légères, délicates. Il y en a quelques-unes au fil du film que j'aimerais rappeler, mais celle-là, cette première-là, c'est vrai qu'elle assoit le film.
Il réussit à sauver des décombres et là, en sortant des décombres, trouve en même temps l'homme en blanc. Alors les deux, il y a une petite poursuite à l'intérieur vraiment du peuple à l'intérieur de la parade. Voilà. Et le tout culmine dans une place publique où est-ce qu'il y a un hélicoptère qui est supposé venir chercher Sciarra. Alors Sciarra embarque dans l'hélicoptère, Bond le suit et c'est là qu'il y a une bataille entre tout le monde, entre Bond, Sciarra, ainsi que le pilote.
Le pilote.
Bond réussit à se débarrasser de Ciara en pichant à l'extérieur de l'hélicoptère, mais il a réussi à lui enlever une de ses bagues que Ciara portait, et on va revenir plus tard à ça. Mais après ça, moi, ce qui me fait rire, c'est qu'il reste le pilote à éliminer. Mais le pilote, tu vois, moi, il en mange une Simonac.
Mais il est fait tough!
C'est ça, écoute, je sais pas, on dirait que le pilote, tout le long, il est comme, non, ça va, je vais juste déposer l'hélicoptère, tu t'en vas, c'est bon, moi, je retourne voir ma famille, mais non, Bond continue à faire ses dents, il cogne la tête, puis après ça, il l'éjecte à l'extérieur.
Ah, il est roux, en plus.
C'est ça, pauvre gars, pauvre pilote, genre sous-payé, puis tout ça, puis aïe aïe.
Mais point très intéressant et très impressionnant, en fait, de cette séquence-là. Premièrement, le nombre de figurants. Parce qu'il y a un nombre extraordinaire de figurants. Il parlait entre 1000 et 1500 figurants qu'ils ont été maquillés, ils ont été costumés, et le tout en 75 minutes.
Wow, ça c'est quelque chose.
Ça fait 20 figurants la minute.
C'est ça, mais le production value de cette scène-là était hallucinant, parce que justement, faut que t'arranges un gros carnaval au complet pour finalement un plan à l'extérieur qui dure quelques secondes à peine, mais toute la préparation derrière ça, c'est gigantesque. Et ça, c'est un des points positifs du film. Peu importe la scène, tu vois, il y a un souci dans les décors, dans l'éclairage, dans les figurants, etc. C'est magnifique.
Et
c'est
pour l'anecdote, au Mexique, en fait, à Mexico, ils ne célébraient pas la journée des morts.
Il y a de los muertos.
Exactement. Ils ne le célébraient pas avec une parade de cette envergure-là, mais après le film, ils ont commencé à le faire parce qu'ils disaient, mais c'est ben trop cool, ça, faut qu'on fasse ça.
Encore une fois, la franchise James Bond a changé bien des choses dans le monde, parce qu'avant, les vodka martini ou les dry martini, ça se faisait juste à la cuillère. Personne faisait ça dans les bars au shaker. Voyez, et devine qu'est-ce qui s'est passé maintenant depuis les années 60.
Puis tout le monde s'empoisonne avec cette affaire-là.
Alors là, finalement, au bout de ses peines, ben Bond réussit à se débarrasser du pilote et là, prend le contrôle de l'hélicoptère et vole à travers Mexico. Penses-tu qu'avec son hélicoptère, il est allé revoir la fille, justement, qu'il avait laissée dans sa chambre d'hôtel?
C'est pas le genre de Bond. Mais en même temps, Bond, il laisse jamais tomber une mission.
En jugé par le toit sur lequel il a marché, je pense qu'il y aurait de la place pour parker un hélicoptère, puis genre juste repasser par la fenêtre, puis aller finir ce qu'il a commencé avec la fille.
Avec le trou qu'il a fait, certainement de la place.
Fait que juste avant, exactement, il vient se créer une piste d'atterrissage.
Le trou hein, dans le building, on s'entend, s'il vous plaît, merci.
Exact. Oh, innuendo. Donc, juste avant, Bond regarde un peu la bague qui a subtilisé à Ciara et on remarque qu'il y a un logo dessus, une pieuvre. Qu'est-ce que ça veut dire? On va le découvrir plus tard, mais c'est là où commence notre séquence générique avec la chanson Writing on the Walls de Sam Smith. Comment tu la trouves, cette chanson-là?
La première fois que je l'ai entendue, j'étais pas sûr. Moi, je connaissais pas Sam Smith. Je suis pas un grand fan de musique pop, entre guillemets, ou de ce type de musique-là. Et pourtant, à la deuxième écoute, j'avoue qu'il y a quelque chose. Puis d'ailleurs, elle a été primée, cette chanson-là.
Elle a gagné l'Oscar aussi.
Voilà,
absolument.
À force, en fait, de l'écouter, je trouve qu'elle a une puissance intéressante. Pas du calibre de Skyfall, qui pour moi est une des meilleures. Mm-hmm. Moi, j'ai toujours celle de GoldenEye en tête, que j'affectionne particulièrement. Puis il y en a une autre que j'aime beaucoup parce qu'elle me fait bien rire, qui est Goldfinger.
Ah, classique.
Par contre, le visuel de la musique, je l'ai pas trouvé extraordinaire. J'ai trouvé sobre, mais sans plus.
Ok, je comprends.
Qu'est-ce que t'en penses?
Elle est bien. La première fois que je l'ai écoutée, j'étais pas sûr non plus, honnêtement, parce que je me suis dit, elle devrait être chantée par une femme, je crois, parce que la chanson me plaît bien. Okay. C'est juste le moment. En fait, ça fait partie de Sam Smith, par contre, de chanter à un moment donné très aigu. Il fait ça dans d'autres chansons, c'est correct, mais ça m'a surpris, puis ça me dérange un petit peu sur ce moment-là. Tandis que ce qui est drôle, c'est qu'il y a des gens sur YouTube, des chanteuses très talentueuses amateurs, qui ont fait leur propre version de Writing on the Wall, et chanter par une femme, ça fait tout son sens, honnêtement. C'est très, très beau, puis ça donne son sens au petit moment parce qu'il se met à chanter aigu.
Sam Smith est allé, il l'a co-écrit, si je me trompe
pas. Il se vante de l'avoir écrite en 20 minutes, mais ça paraît.
Ouais, ok, vu de même, mais Sam Smith voulait écrire la prochaine tune de James Bond.
Oh, oui.
Je sais pas si t'allais en parler, mais il voulait faire une chanson d'amour, en fait.
Ok.
Fait quand tu la regardes avec cet angle-là, tu dis, bon, peut-être qu'effectivement, si ça avait été une femme qui l'avait chanté, il y aurait eu, je sais pas, un autre type de force, certainement. Après, est-ce que ça aurait été meilleur? Je sais pas. Je serais curieux, en fait, d'entendre les versions que les femmes ont chantées sur YouTube, certainement. Puis, on va le voir dans le film, quand même, il y a quelque chose de puissant, là, entre les deux protagonistes. On va certainement en parler. Mais voilà, c'était ça l'idée derrière.
Cool, intéressant, très intéressant. Hein? Sais-tu que dans un univers alternatif, Spectre a une chanson thème alternative?
Eh bien, en fait, tu me l'as confiée hier.
Exactement. C'est-tu quoi? Je vais te la faire entendre aussi à toi et à nos auditeurs. C'est que, pour faire une petite histoire courte, depuis que la franchise de James Bond existe, il y a des artistes qui se sont rendus compte que c'est payant faire tout simplement une chanson thème pour un film de James Bond. Alors, il y a plusieurs artistes très connus qui ont enregistré, avant même que le film sorte, puis sans qu'on leur ait demandé, ont enregistré une version d'une chanson thème de James Bond, carrément.
Et
ils ont envoyé...
Préparez-vous, parce que...
C'est ça. Ils ont envoyé ça au producteur en espérant être pris. Voilà. Et écoute, c'est pas n'importe qui a fait justement. Il y a Elvis Presley, Johnny Cash, Alice Cooper aussi, pour en nommer quelques-uns. En fait, je sais que René Martel le fait aussi, mais ça a été rejeté du revers de la main, malheureusement. Chanson country pour Tomorrow Never Dies. Ben, en fait, c'est ça. Chacun de ces artistes-là qui ont voulu tenter leur chance comme ça, ça a jamais marché, malheureusement. Oui. Alors, ben, il y a un groupe qui a décidé de retenter sa chance en espérant changer un peu cette formule-là d'être refusé sans avoir été demandé. Alors, Radiohead fait une chanson qui a pour titre Spectre et qui a été envoyée à Barbara Broccoli et aux autres producteurs dans le but que ce soit utilisé comme la chanson thème du film. Elle est difficilement trouvable. Elle a popé sur YouTube pendant quelques heures il y a 2 ans avant d'être retirée par qui l'a mis. J'ai encore une fois traqué et cherché cette piste-là et je vous l'ai trouvée. Alors, on va l'écouter. Puis Gabriel, je vais te faire un petit cadeau aussi pour encore te mettre dans cet univers alternatif-là. Je vais te synchroniser la chanson de Radiohead avec le générique de début de Spectre. Comme ça, tu vas avoir, tu vas avoir vraiment l'expérience complète. Alors, à la maison, on va en écouter une petite minute, OK? C'est parti.
Possessed, taken hold. My hunger burns, a bullet hole. Specter.
Tes impressions à chaud comme ça?
C'est intéressant. J'aime beaucoup Radiohead. J'aime l'aspect atmosphérique de leur chanson. Clairement, on le retrouve. C'est une signature, c'est une facture auditive qui est très, très Radiohead, qui est fort intéressante et qui s'y est très, très bien, en fait, à la séquence d'ouverture. Le violon est intéressant. Moi, ça vient me chercher le violon. Hein. Et en fait, par curiosité, je t'aurais demandé si on pouvait pas écouter la version de Sam Smith après pour essayer de faire une petite comparaison.
On peut faire ça tout de suite. Regarde, laisse-moi aller la retrouver.
Je crois que je préfère quand même celle de Sam Smith. C'est curieux, hein?
Ben, c'est ça, je voulais savoir. Est-ce que, après avoir écouté la version Radiohead, est-ce que t'apprécies plus celle de Sam Smith ou finalement, t'aurais plus tendance à prendre pour celle de Radiohead?
Mais c'est curieux parce que j'ai une affection pour Radiohead, clairement. Je connais beaucoup moins Sam Smith. Et pourtant, je pense que je garderais celle de Sam Smith.
Ben, en fait, je t'ai posé la question-là parce que c'est exactement ça que je me suis dit aussi, qu'après avoir écouté cette alternative-là, elle m'a fait plus apprécier la version de Sam Smith en disant que, ben, entre deux mots, tu prends le moins pire, c'est ça? c'est ça, exactement. Fait qu'on peut l'écouter un petit peu.
Hein. Ben oui, on va être un petit treat pour vous.
I wanna feel love. through my blood. Tell me, is this where I give it all up for you? I have to risk it all, 'cause the writing's on the wall.
Voilà, voilà. Et il y a une voix quand même particulière.
Oui, ah, ben tout à fait.
C'est habile, hein.
Oui, oui, pour être capable de faire ces variations-là, tant mieux, il n'y a pas de problème là-dedans.
Mais tu vois, ça confirme mon impression originale, qui est que je préfère la version de Sam Smith.
Ben, tant mieux, si ça a pu confirmer ça, il n'y a pas de problème, mon gars. Chapeau à Sam Smith, puis ça a quand même remporté un Oscar, ce qui est toujours très appréciable
ben
pour
oui.
autant la franchise de Bond que pour l'artiste lui-même. Alors, tout le monde est heureux.
Tout
le monde est heureux là-dedans. On
va
revenir à Londres, si tu le permets. Immédiatement, après avoir fini le générique de début, on commence directement dans les bureaux du MI6, où est-ce que Bond se fait gronder par M, quand même, qui est encore très bien joué par Ralph Fiennes, qu'on est très heureux de voir dans ces bottes-là. Et M est pas content parce que Bond est allé à Mexico, mais c'était aucunement une mission sanctionnée par les services secrets britanniques. Il est allé là de son propre chef, sous les ordres de qui, pour aller exécuter ce qu'il y aura, mais pourquoi? Mais Bond refuse quand même de divulguer pourquoi, par qui il a été envoyé là-bas. Alors, il est suspendu. À la sortie du bureau, Bond va tomber sur un nouveau personnage nommé Max
Denby.
Paturity. Non, c'est ça.
Oh, non, mais il serait pas rentré. ça rentre jamais avec Pacho.
C'est ça. Max Denby, qui est, on va le découvrir ensemble, qui est le chef de la sécurité d'une toute nouvelle organisation qui a pour but de centraliser, attends, faut que tu mettes là-dessus, de centraliser tous les pouvoirs des compagnies de surveillance en une seule grosse méga corporation qui n'est pas élue, qui n'est pas non plus sanctionnée, dans le but de faire de la prévention contre le terrorisme et etc. Ça se prend
tout
à ça.
C'est une instance gouvernemental qu'ils veulent créer. Et lui, ils vont lui donner le surnom de C plutôt que M. Hein?
Oui.
Ça vient avant dans l'alphabet, pour ceux qui ne le sauraient pas.
Ah.
Mais bref, c'est une instance paragouvernementale qui est créée par le Royaume-Uni pour chapeauter les organismes de surveillance. Donc, ils vont fusionner MI5 et MI6.
Oui.
Ils vont créer cette espèce de méga corporation de sécurité parce
c'est
que ça.
Ça
vit un peu à l'extérieur du monde démocratique. Puis c'est souvent répété dans le film. C'est-à-dire que la démocratie, pour eux, c'est un frein à l'efficacité. Puis ça, c'est un trope qui revient souvent, en fait, en relations internationales. Puis je pourrais vous en parler un jour, si vous voulez. Mais effectivement, il y a une centralisation des connaissances sécuritaires, en fait, de nombreux pays. C'est ça, l'objectif, là. On le voit plus tard dans le film, il veut créer l'organisation des Nine Eyes.
Okay.
Donc, les 9 yeux. Puis ça, c'est calqué sur une organisation qui existe déjà, qui s'appelle les Five Eyes, qui regroupe le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni et les États-Unis.
Très intéressant.
Donc, qui vont avoir des, dans le fond, des fichiers, des bases de données qui vont être mises en commun. Ils se partagent l'information. On entend souvent que le SCRS, par exemple, va parler avec les organismes sécuritaires au Royaume-Uni. Bon, c'est sûr que ça tourne un peu autour du Commonwealth, là, évidemment. Au cœur de ça, il y a le Royaume-Uni et son grand passé colonial.
Mm-hmm.
Mais donc, on est dans une ère de mondialisation. Puis on est aussi dans une ère de périls globaux. C'est un peu une trame du film, on s'entend. La pieuvre tentaculaire, mm-hmm. Cette organisation de l'ombre qui gère tout le mal, c'est quelque chose qu'on voit notamment dans Mission Impossible Rogue Nation. On voit aussi dans Sherlock Holmes.
Mm-hmm.
Et d'ailleurs, pour ceux qui ne le sauraient pas, on va vous annoncer quelque chose ici. Max Denby, ce fameux C, est joué par Andrew Scott, le seul, l'unique Andrew Scott qui joue Moriarty.
La lettre M aussi.
Voilà.
encore une lettre. C'est très
fait
drôle.
Fait qu'Andrew Scott... Bon, alors pour ceux qui regardent un peu la télévision, et nous en sommes, Andrew Scott a dans la face tatouée le personnage méchant.
C'est ça, il est pas très bidimensionnel.
Non,
tu sais qu'il est méchant dès le départ.
Il y a aucune surprise. Mais c'est une idée de casting particulière. Là,
non,
tu voulais nous montrer un extrait.
C'est très... on va le regarder un petit peu, mais je veux qu'on finisse là-dessus parce qu'effectivement, c'est pas très subtil d'avoir choisi Andrew Scott pour ça parce qu'il est connu par le public pour avoir joué Moriarty, un personnage vilain. Puis là, tu le ramènes dans un autre personnage vilain. Il y a pas de nuance dans le fond. Tu sais, le personnage aurait peut-être bénéficié à être au début introduit comme un allié, puis que finalement, tranquillement, pas vite, devient un vilain. Tu sais, là, il y aurait eu un certain arc du personnage. Tandis que là, dès sa première scène qu'on va écouter à l'instant, il est très mesquin. Tu sais, son but ultime.
Oui.
Vas-y.
Puis j'allais ajouter, en fait, moi je le trouve jeune pour ce rôle-là. On s'entend que c'est une instance paragouvernementale de sécurité, là. Ils vont mettre un espèce de haut fonctionnaire un peu tout croche là-dessus. Il devrait être beaucoup plus vieux que ça.
Okay.
Puis avec un personnage qui a du vécu, tu ne peux pas dire si c'est nécessairement un méchant ou si c'est nécessairement un bon. Toujours, tu sais, dans l'idée qu'ils vont peut-être s'affronter. C'est curieux, mais moi j'avais pensé à Michael Caine. My Cocaine.
My Cocaine. Hello, the size of a tangerine.
Qui aurait évidemment un rôle moins physique, mais tu peux pas t'attendre à ce qu'il soit méchant, My Cocaine. Ouais. Et là, il ramène Andrew Scott, qui est jeune, puis que tu sais que, en fait, on y allait à face. Fait que.
Ouais.
Qui est pourtant un bon acteur.
Oh,
ça n'a rien à voir avec le fait
que. Exactement, c'est qu'il est très antipathique dans ce film-là, puis que tu l'aimes pas. Puis ultimement, c'est un personnage, juste parce que M, dans tout le film, est beaucoup plus présent qu'il n'a jamais été dans tous les autres films de James Bond.
Ah,
je veux dire,
oui,
la version masculine,
oui.
Plutôt pas la version de Judi Dench, mais tu sais, ça a toujours été l'homme derrière son bureau qu'on voit dans une scène ou deux dans le film, tandis que il fait partie de l'histoire. Puis c'est probablement juste un prétexte qu'ils ont donné pour l'histoire B de Spectre, qui est vraiment M, qui est contre le fait que cette agence-là, le Nine Eyes, comme tu me disais, arrive, parce que ça va rendre obsolète le programme des agents 00 et tout ça. Donc, ça va mettre beaucoup d'agents à la porte. Ça va aussi mettre M à la porte, le rendre obsolète également. Donc, c'est vraiment un affrontement entre l'ancien et le nouveau également. M ainsi que C vont être un petit peu aux antipodes. Alors, on peut regarder un petit peu ensemble la présentation où est-ce que Bond fait la rencontre de C dans le bureau de M. On y va tout de suite. Aussi, ce que je voulais dire, chers auditeurs, on va y aller en français également pour nos auditeurs qui ne comprennent peut-être pas l'anglais. Alors, c'est une version doublée en France. On va l'accepter, elle est de bonne facture. Mais
absolument.
Je rêve encore au jour où est-ce que James Bond va être doublé au Québec.
Oh.
La seule fois où j'ai vu ça, c'était une pré-bande-annonce de Die Another Day, où est-ce que c'est un petit teaser trailer, où est-ce que tu entendais la voix d'Éric Gaudry. C'est un doubleur québécois qui fait entre autres la voix de Liam Neeson puis du père de Milhouse. Et dans Les Simpsons, ben, il faisait comme Pierce Brosnan dans Meurt un autre jour, novembre 2002.
Oh là là.
Fait que là, j'étais quand même encouragé, mais finalement, quand j'ai vu le film, c'était malheureusement encore la version française. Alors, on écoute ça ensemble. Aussi, je veux vous dire, chers auditeurs, notre système anti-sacre est de retour encore une fois. Alors, si on dit la vulgarité, ça va être censuré.
Maudit tabac de col d'enfant.
C'est parti, on écoute notre extrait. Go!
Une excuse, je dérange peut-être.
Parle-moi du monde. 007, je vous présente Max Denby, le coordinateur des services de sécurité.
Oh, ravi de faire enfin votre connaissance. J'ai beaucoup entendu parler de vous. En bien, surtout.
Félicitations pour vos nouvelles attributions.
Merci.
Nous devons vous appeler C, alors ?
Non, non. Max, je vous en prie.
Non, je vais vous appeler C. C.
À votre guise. Ma porte vous sera toujours ouverte, 007. Comme à tous mes employés. Cette fusion ouvre un nouveau chapitre. Le renseignement britannique est à l'âge des cavernes. Nous le sortirons. Au grand jour.
Perspective des plus charmantes.
Ce sera tout, 007. Veuillez vous présenter chez Q demain pour examen médical.
À vos ordres.
Pas sûr que ces trois-là, ça va être des grands amis pendant pendant tout le film. Ça commence de manière très antipathique.
Non, exact.
Alors, comme le demandait M, eh bien, Bond va faire cette bonne vieille tradition de toute la série des James Bond, c'est-à-dire aller faire un petit tour au laboratoire de Q.
Ah, oui.
Et bon, il va se passer des choses intéressantes. Premièrement, Bond va se faire injecter dans le sang quelque chose, c'est-à-dire un MacGuffin qui s'appelle du Smart Blood, c'est-à-dire c'est tout simplement des nanoparticules qui vont faire en sorte qu'ils vont être dans le système sanguin de Bond pour deux choses. Premièrement, qu'il soit repérable partout dans le monde via satellite pour éviter que des bavures comme ce qui s'est passé à Mexico se reproduisent. Et deuxièmement, pour lui donner dans quelques années une leucémie.
Oui, exactement, exactement. C'est comme travailler dans une école à Montréal les années 80.
Oui, c'est ça.
Fait qu'il se promène avec de l'amiante dans le corps.
Bond va essayer de dealer avec dans le prochain extrait qu'on va regarder, va essayer de dealer un petit entente avec Q parce que Bond n'a pas fini son travail. Parce qu'une scène qui apparaît avant, c'est que Moneypenny va rendre visite à Bond de chez lui pour lui donner une boîte d'effets personnels qui ont été récupérés de ce qui reste des décombres de Skyfall après qu'elle ait explosé, brûlé. Et deuxièmement, ben, c'est que Moneypenny réussit à tirer les verres du nez à Bond. Elle lui demande encore une fois pourquoi tu as été à Mexico dans une mission qui n'était pas sanctionnée et finalement ouvre la télé et voit une vidéo de M, l'ancienne version Judi Dench que j'étais très heureux de revoir. C'était une surprise pour tout le monde. Personne savait que Judi Dench aurait un petit caméo dans le film. D'habitude, c'est genre affaire qui fuit sur Internet avant que le film sorte. Alors, ben, tant mieux, c'était une belle surprise qui restait. Alors, elle lui dit dans ce vidéo-là, il faut absolument que tu retrouves un homme qui s'appelle Sciarra. Et dès que tu l'as éliminé, tu t'en vas en Italie à ses funérailles immédiatement. Ouais. Alors, c'est là-dessus que Bond veut compléter la mission, va aller aux funérailles de Sciarra en Italie. Alors, demande à Q d'essayer de mentir au boss.
Qu'on se rappelle que Bond n'est plus à l'emploi, n'est plus
un
agent.
Suspendu,
il est suspendu, exactement.
Q accepte d'y donner 48 heures de lousse. Et ben ultimement tellement que ben aussi Bond réussit à s'emparer de l'Aston Martin nouveau cri et roule jusqu'en Italie. Alors ben parlant du petit deal que Bond et Q sont en train de faire, ben on va l'écouter ensemble.
C'était curieux cette conversation là. Passe cet extrait là puis on en discute.
T'as-tu vu des doubles sens?
Ah moi j'ai vu quelque chose de particulier.
Ok, on écoute ça ensemble, tu en parleras après.
Q. Ouais.
Maintenant que vous pouvez savoir où je me trouve, à tout moment, vous pouvez me rendre un service?
Qu'avez-vous derrière la tête, au juste?
Faites-moi disparaître.
Je vous rappelle que je suis sous l'autorité directe de M. Et j'ai un prix immobilier, ainsi que deux chats à nourrir.
Ah, dans ce cas, je vous conseille de vous fier à moi. Pour l'avenir de vos chats.
J'ai été ravi de vous revoir, 007. Tout à fait ravi. J'ai oublié de préciser que le programme Smart Blood est bien sûr toujours dans sa phase expérimentale. Il se peut qu'exceptionnellement il y ait un décrochage de réception lors des premières 24 heures. 48 heures. Suite à l'inoculation, mais ensuite tout devrait fonctionner de façon impeccable.
Je vous enverrai une carte postale.
N'en faites rien surtout.
Ouais, parle-moi un peu de ce que t'as remarqué là-dedans.
Non, mais la conversation. Bond parle avec Q. Puis là, il menace ses chats. Il menace les chats de Q. Fait que petit travail de coercition juste pour avoir les petites 48 heures. Moi, j'ai trouvé ça bizarre. J'ai trouvé ça particulier. C'est très drôle. C'est
ça a marché aussi.
Oui, ça a marché. Ça a marché très bien. Mais et oui, finalement, il peut emprunter la fameuse Aston Martin DB10.
La DB10.
Qui va donner plus tard la Vanguard 2018. C'est la base pour la Vanguard. Donc celle-là, elle n'a jamais été commercialisée. Je donne ma.
Et puis heureusement, celle-là ne devient pas invisible aussi. C'est ça que j'aime beaucoup.
Oh mon Dieu.
On en reparlera dans notre émission sur Die Another Day. Qu'est-ce que tu en penses?
Ah, avec plaisir, avec plaisir.
Bond arrive en Italie et débarque aux funérailles de Sciarra. Donc, on va voir plusieurs invités. Il y a sa veuve qui est là, qui va être jouée pendant quelques instants. Je vais en parler tantôt. Mais il remarque aussi une silhouette qui a l'air un peu familière de dos. Cette silhouette-là semble sonner une cloche à Bond. Mais ultimement, cette silhouette-là semble sentir la présence de Bond, se tourne légèrement, mais après ça, décide de quitter. Bond s'en va voir la veuve Sciarra, Donna Lucia, qui est jouée par la plus magnifique des femmes de toutes, Monica Bellucci. Écoute, il y a des années, je disais que c'était la plus belle femme dans la trentaine. Je disais ensuite que c'était la plus belle femme dans la quarantaine. Et maintenant, c'est la plus belle femme dans la cinquantaine que je connaisse, honnêtement. Elle est si belle. Alors là, ben, c'est...
Une magnifique actrice, par ailleurs. Oui. Une grande actrice, là.
Aussi, absolument. C'est pas juste, encore une fois, juste une belle fille.
Exactement.
Qui se présente être actrice. Elle a les chops d'actrice.
Exactement.
Les deux parlent ensemble. Et là, Bond commence à soulever le fait qu'elle pourrait être en danger maintenant que son mari est mort. Ben, ce qui va se passer, c'est que plus tard, elle sent qu'elle est en danger, retourne chez elle. Et il y a deux tueurs qui sont là pour l'achever. Bond réussit à supprimer les deux tueurs et commence une conversation ainsi qu'une séduction avec Donna Lucia pour en savoir plus sur son mari, faisait partie de quelle organisation et il veut en savoir plus. Moi, j'ai encore besoin de ton aide là-dessus, ok? Je sais pas si t'as une théorie là-dessus, mais pourquoi Donna Lucia, c'est une personne à abattre maintenant qu'elle est veuve? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'elle est une menace maintenant?
C'est un trou, ça.
Ça, je cache pas. C'est-tu parce qu'il y avait des discussions sur l'oreiller après avoir fait l'amour ou est-ce qu'il disait « Ah, ben là, je fais partie d'une organisation secrète. »
J'ai l'impression, mais d'ailleurs, elle en parle un peu, Donna Lucia, elle a pas vraiment été très très près de son mari, parce que son mari se promenait un peu partout. Son mari lui-même tueur, membre d'une organisation déjà de l'ombre, douteuse, fait que je crois pas que leur relation ait été particulièrement intime.
Exactement, fait que raison de plus pour l'épargner, puis de pas gaspiller des balles en l'assassinat, elle sert à rien, c'est pas une personne d'intérêt qui pourrait faire couler de l'information. Alors c'est là que j'ai toujours trouvé que c'était un petit peu nébuleux ce point-là.
Ben, c'est un premier point d'interrogation qu'on se pose. On se dit, bon, c'est-tu vraiment nécessaire? Puis une organisation de cette envergure-là ne peut pas avoir tant de membres fidèles si elle se met à descendre toute leur famille une fois qu'ils sont morts. C'est impossible. Il se mettrait tout le monde à dos. Ça n'a pas de bon sens. Est-ce que c'est un vestige de Logan qui avait pas trop pensé à son affaire? Est-ce que Wade puis
Purvis, c'est ça.
Purvis sont arrivés puis ont essayé de rabibocher un peu le tout?
D'après moi, c'est ça. Juste dans le but de créer une raison pour ces deux-là de se rencontrer. C'est-à-dire, quelle meilleure raison que Bond lui sauve la vie pour qu'elle puisse lui donner l'information dont il a besoin. Mais encore une fois, ça aurait pu être fait autrement, mais c'est je ne cache pas pourquoi avoir mis une menace pas nécessaire sur elle. Mais en tout cas, ça fait un film plus intéressant. Mais logiquement, selon moi, ça ne fait pas grand sens.
Je suis tout à fait d'accord avec toi.
Immédiatement après avoir abattu les deux assaillants, ben Bond décide de la rassurer un peu en lui versant un verre de champagne, littéralement. Va s'amorcer une petite scène de séduction qu'on va écouter ensemble. C'est parti.
Cette organisation, il est très rare qu'elle s'y réunisse. Et à cause de ce qui est arrivé à mon époux. Fais séance ce soir.
Dans quel but?
Choisir un remplaçant.
Où ça?
au Palazzo Cardenza. À minuit.
Ça donne envie. Je vais peut-être y faire un saut.
Il était comme possédé. Il passait plus de temps avec eux qu'avec moi.
Ils sont pas crétins, donc.
Mais en fait, je suis très heureux de voir Monica Bellucci faire partie de la famille des films de Bond. Cependant, j'ai l'impression que c'est fait comme 10 ans trop tard. Elle aurait pu
mais
faire
elle voulait
partie.
Le faire, ouais. Elle voulait faire partie d'un des Bond, si je me trompe pas. Elle avait postulé. Elle avait présenté
auditionné,
sa candidature.
C'est ça,
ouais, elle avait auditionné pour, je crois, The World Is Not Enough.
Elle aurait probablement fait le personnage de Sophie Marceau.
C'est ce que je crois aussi, effectivement.
Mais en tout cas, mieux vaut tard que jamais. Puis voilà. L'autre preuve que si on vit assez longtemps, si on est assez patient, on peut voir tout ce qu'on veut dans le monde. Puis aussi, ce qui est amusant, c'est que, en fait, le personnage joué par Monica, qui est la Donna Lucia Sciarra, elle brise enfin un des tropes de l'ère Bond, c'est-à-dire que chacune des femmes secondaires, des femmes fatales secondaires avec qui Bond couche au milieu du film, meurt.
Oui.
Dans Casino Royale, c'est Solange. Dans Quantum, c'est l'agent Field, son prénom Strawberry.
Ah,
et
ça,
ensuite...
On voit une minute, là.
Exactement. Et Séverine dans Skyfall. Je suis heureux de voir qu'ultimement, elle va survivre grâce à Felix Slater qui va la sortir du problème dans lequel elle est, qui va sûrement l'exfiltrer à l'extérieur de l'Italie pour qu'elle puisse vivre heureux.
Bond ouvre cette possibilité-là. En fait, c'est son ouverture pour
exactement,
Donna
Lucia. C'est sa façon de la sauver littéralement.
Point intéressant. Si je ne m'abuse, Monica Bellucci est dans la cinquantaine et devient une Bond girl dans la cinquantaine. C'est rare. Je ne crois pas en avoir vu une autre.
Non, c'est la première fois littéralement.
Voilà.
Ça fait drôle enfin de voir une femme à peu près du même âge que Bond, parce qu'on s'entend que Bond a toujours été plus vieux que les co-stars féminines du début de la vingtaine qu'il y avait. Pas grave, regarde, tant mieux, c'est un signe où est-ce que ça s'est adapté, puis la femme dans la cinquantaine qu'on choisit, c'est une des plus belles sur la Terre.
Mais voilà!
Tant mieux, tout le monde est heureux dans ce cas-là. Alors Bond, comme on l'a entendu, connaît maintenant les coordonnées de où est-ce que cette organisation-là secrète va se rencontrer plus tard dans la même nuit. Bond a eu ce qu'il voulait, et il a eu ce qu'il voulait.
Il
va en Aston Martin se rendre à l'endroit parce que cette organisation-là secrète va se rencontrer. Quand il arrive là-bas, il se passe des choses intéressantes dans cette scène-là. Premièrement, on se rend compte que c'est bien des gens assis autour d'une grande table qui semblent deviser pour prendre le contrôle de certaines ressources. Et ensuite, il va avoir les portes qui vont s'ouvrir et il va avoir une figure mystérieuse qui est exactement la même silhouette que Bond a reconnue au funérailles de Sciarra qui va venir s'asseoir et présider. Alors là, un des points de cette réunion-là, c'est qu'il est question d'envoyer un agent, c'est-à-dire un tueur, pour éliminer un personnage qui s'appellerait le Roi Pâle. Qui est cet homme? On va le découvrir dans quelques instants.
Oui.
Alors, il y a déjà un Italien qui est là, qui dit « Il n'y aura pas de bavure comme Sciarra a fait, je vais éliminer le Roi Pâle. » Et là, ensuite, la figure mystérieuse demande « Est-ce qu'il y a un autre volontaire pour... »
En fait, je pense qu'il demande « Est-ce que quelqu'un s'oppose à cette
nomination? » Est-ce que quelqu'un s'oppose? Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui voudrait prétendre justement à la place? C'est là qu'arrive...
John C.
C'est là qu'arrive plusieurs fois champion de la WWE et depuis quelques années propriétaire d'une excellente crêperie au Vermont, Dave Bautista.
Bautista!
Qui joue le personnage de Monsieur Inks, qui est dans la longue tradition des, j'ai pas le terme en français, mais des henchmen, des hommes de main, silencieux, très fortement puissants.
Moi, je pense à Jaws, en fait. Dès que j'ai vu Bautista, j'ai pensé au personnage de Jaws.
C'est ça, moi, je pense à Red Grant aussi, dans Bon Baiser de Russie, puis un paquet d'autres qui étaient imposants physiquement, qui devaient justement faire le sale travail pour le méchant principal, qui d'habitude est un peu efféminé.
Et je sais pas si t'as remarqué, mais sur ses pouces, ils ont mis des lames, et c'est vraiment pour ça, c'est là que j'ai fait le lien. C'est peut-être un petit clin d'œil parce qu'on voit la forme comme d'une dent de requin.
Ah oui,
des petits clins d'œil comme ça. Il y en a quelques-uns.
Donc, Monsieur Inks arrive dans toute sa corporance et là, achève en quelques instants le tueur qui s'était proposé au départ. L'assomme, lui crève les yeux et lui fracture les vertèbres. Et Inks, maintenant, on sait que c'est lui qui va aller éliminer le Roi Pâle.
Et pas là, un mot, hein?
Il dit un mot dans le film. On va le voir tantôt. Tout le long, c'est une présence plutôt imposante physiquement qu'intellectuelle. Bond, caché dans les hauteurs de la salle, regarde toute la scène avec attention. C'est là où est-ce que la fameuse figure qui préside la réunion commence à parler et va se tourner vers Bond.
Mm-hmm.
Parce qu'il sent encore une fois sa présence. On va écouter cet extrait-là.
Oui, il lui dit un mot, vous écouterez.
Coucou.
C'est amusant. Toute cette agitation de Mexico m'avait mis la puce non loin de l'oreille. Mais ce soir... En ces lieux, soudainement, cela paraît un peu plus logique. Bienvenue, James. Cela fait une éternité. Mais enfin, nous y voilà. Tu en as mis du temps. Coucou.
Donc, cette figure reconnaît Bond et Bond la reconnaît. Mais on va découvrir son identité un petit peu plus tard. Mais les deux se connaissent, ça semble vraiment être un personnage qui sort du passé le plus profond de Bond, c'est-à-dire même son enfance, carrément. Mais là, immédiatement après, Bond veut sortir de là parce qu'il a été découvert et s'ensuit une course folle en voiture. Bond rentre dans son Aston Martin et là, est pris en chasse par quelque chose qui a l'air d'une Lamborghini, vraiment dernier cri, quelque chose du genre.
En fait, c'est une Jaguar CX-75.
Jaguar, excellent, merci beaucoup.
C'est un véhicule qui n'a pas été commercialisé, qui a été adapté parce que il faut que Bautista et son personnage puissent entrer dedans et qu'il puisse rouler parce que c'est un véhicule qui avait de la difficulté à rouler, qui a aucune fiabilité. Les véhicules de Jaguar ont ce petit problème.
Comme leur passage en Formule 1 nous l'a prouvé aussi.
Mais donc, Sam Mendes, semble-t-il, voulait faire une espèce de personnification des deux personnages. C'est-à-dire que James Bond est dans son Aston Martin DB10 argenté, un véhicule qui est slick, là, qui a une classe, mais qui est rapide, qui est fiable, vite. Et puis, il y a une espèce de supercar derrière, rouge, flamboyant, vraiment large, puissant, qui part à sa poursuite. Et donc, ces deux véhicules anglais, là, ça, c'est ce qui est un peu invraisemblable, parce que d'habitude, ils roulent pas. Mais...
poursuite folle, Bond se fait poursuivre par Monsieur Ings, qui est rentré dans sa voiture en à peu près un temps record de 1,5 secondes. Alors,
lui, les murs, ça compte pas. C'est ça, ultimement, il est sorti comme ça, c'est normal.
Plus je la regarde, plus je l'aime, cette poursuite-là. Parce que, contrairement à beaucoup de films de poursuite de char où est-ce que ça coupe au 0.5 secondes avec des nouveaux plans, le film prend le temps de nous montrer avec des longs plans les déplacements des voitures, les drifting qu'ils font, les accélérations, elle est superbe à regarder cette
séquence-là. Elle est vraiment réussie. Une des forces, je trouve, de Sam Mendes qui a pris Skyfall et Spectre, c'est qu'on voit l'action, on voit ce qui se passe. Dans Quantum of Solace, ça a été un gros bémol, à mon avis, parce qu'il y a de nombreux plans qui font moins d'une seconde.
Ah oui, c'est épileptique, des fois. Hein.
C'est tout le contraire avec Sam Mendes. Puis dans les longues séquences d'action, déjà, t'as le plan séquence au début qui est impressionnant. Moi, je trouve qu'au niveau de la réalisation, c'est très intéressant.
Montrer l'action avec des longs plans, ça donne vraiment encore plus tout le crédit à ces chauffeurs-là, professionnels, qui ont pris le volant de ces deux bolides-là pour leur faire ce qu'on voit à l'écran. Chapeau, c'est très, très beau.
Non, c'est ça. C'est pas Fast and Furious où la moitié du temps, les chars sont pas là, là. Là, c'est vraiment des chars qui sont là. Tu les vois.
Bond, quand même, dans une poursuite folle comme ça, a l'air d'un petit peu s'ennuyer. Fait qu'il décide d'appeler Moneypenny en plein milieu de la nuit pour aller faire un petit peu d'investigation avec elle. Alors, il va lui poser deux questions précises. Il va lui demander plutôt de faire deux recherches pour lui. Il a entendu le nom du roi pâle. Il lui demande, veux-tu contre-vérifier dans notre base de données qui est le roi pâle? Alors, après quelques drifting, etc., elle trouve la réponse qui est, en fait, Monsieur White, qu'on a connu dans, justement, Quantum of Solace et à l'origine dans Casino Royale, et celui qui était dans par le nom de code du roi pâle. Bon, ça répond à la question.
Pour ceux qui ne le sauraient pas, Monsieur White, c'est la troisième apparition dans un film de James Bond, qui est le plus d'apparitions pour un vilain Bond dans les films de James Bond, pour cet acteur-là.
Excellent.
C'est intéressant, hein? On le voit pas beaucoup, par contre.
Non, ben c'est ça, il sert l'histoire, il donne quelques petites bribes d'informations ici, mais c'est ça, on l'a vraiment connu comme membre de l'organisation Quantum, au départ, qui remplaçait Spectre il y a quelques années. Et ensuite, il décide de demander à Moneypenny une deuxième information, faire une recherche que voici. On va l'écouter ensemble.
Vous êtes toujours là?
Oui.
Vous lancez une autre recherche?
Allez-y, j'écoute.
Il s'agit d'un certain Franz Oberhauser. Éplucher son pédigré avant et après sa mort.
Quoi? Après sa mort? Qu'est-ce que ça veut dire?
Merci de faire ce que je dis.
Et là, ils arrivent devant le Vatican. Ça fait des plans extraordinaires quand même.
À la toute fin, ça se termine que Bond réussit à semer Ings en s'éjectant de son Aston Martin.
qui se retrouve dans le tube.
La poursuite se finit là. Tant mieux, Bond a son information, c'est-à-dire qui est Monsieur White. Alors, on se déplace en Autriche.
Ah, l'Autriche. Un si beau pays. Mais juste avant que 007 aille poursuivre son enquête, on va mettre un signet dans notre conversation d'aujourd'hui pour faire durer le plaisir. L'aventure va se conclure dans notre prochain épisode dans lequel vous découvrirez tout ce que Gabriel et moi avons à dire sur les nouveaux personnages qui s'en viennent et sur les nouvelles péripéties de Bond qui vont faire leur apparition dans notre deuxième partie. Pour l'instant, je vous remercie de nous avoir écoutés et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour le prochain épisode de Sans commentaires ou presque.